Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Lorsque je me suis lancée dans le minimalisme, j'ai beaucoup désencombré. Et j'ai changé au fil des années ma manière de consommer. Cela étant, au bout de quelques années de pratique, j'ai aussi pris conscience que j'associais inconsciemment les marques que je choisissais d'acheter à mon identité de minimaliste. Par exemple, je suis minimaliste, donc j'achète chez Muji, chez APC, chez tel petit artisan de quartier, etc., etc. Pourtant, pour moi, pratiquer le minimalisme consiste à désencombrer le superflu pour faire place à l'essentiel et le laisser grandir. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai vite remarqué que pour moi, l'essentiel n'était pas matériel. Donc finalement, l'essentiel, ce n'est pas d'aller acheter chez telle ou telle marque qui valide mon identité de minimaliste. Alors comment en étais-je arrivée à faire un lien aussi direct entre mon identité de personne qui s'intéresse au minimalisme, à l'écologie, etc., et les marques que je choisissais d'acheter ? Pour réfléchir à cette question, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du lien que fait le marketing entre notre identité et nos choix de consommation, ce qu'on appelle parfois dans le monde anglophone « consumer identity », ou l'identité de consommateur ou consommatrice, et j'ai aussi envie de vous parler de comment la simplicité peut aider à renouer avec notre véritable identité. Dans notre société, nous avons appris à associer notre identité à notre mode de consommation. J'achète, donc je suis. Ou en d'autres termes, je suis ce que j'achète. Du coup, beaucoup de ressources autour de la simplicité et d'autres mouvements similaires comme l'écologie, éthique sociale par exemple, tournent autour de la manière de consommer d'un minimaliste, d'un écolo, de quelqu'un qui s'intéresse à l'éthique, etc., etc. On va vous dire de consommer moins et mieux. On va vous dire de voter avec votre portefeuille, on va vous dire de choisir des sources éthiques, de privilégier la seconde main, de consommer auprès de petites marques françaises si nous en avons les moyens, voire dans certains cas, on va nous donner des listes de marques qui sont bio, qui sont écolo, qui sont éthiques, qui sont minimalistes, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Et dans l'absolu, c'est très bien de consommer autrement. Pour moi, je considère que c'est un premier pas vers une prise de conscience et d'un refus de l'exploitation des ressources de la planète et du travail, et dans la société actuelle, qui est basé sur la consommation, sur la croissance économique, choisir comment consommer, c'est déjà un moyen de vivre plus en accord avec nos propres valeurs et de chercher à faire une différence à notre niveau. C'est la manière dont je vois les choses personnellement et je continue à ce jour à faire de mon mieux pour consommer autrement en tant que minimaliste. Cependant, la simplicité ne s'arrête pas à changer notre manière de consommer. Notre identité de minimaliste, ou encore de personne qui rejette la surconsommation, qui souhaite protéger l'environnement, arrêter l'exploitation de travailleurs pauvres, d'animaux, etc., etc., quelles que soient les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur, cette identité-là n'est pas définie par le fait d'acheter français, d'acheter bio, d'acheter zéro déchet, d'acheter telle ou telle marque. Qu'est-ce que c'est que l'identité de consommateur ou de consommatrice ? Pour faire simple, dans la société actuelle, moderne, occidentale, nous avons l'habitude de nous définir par ce qu'on choisit d'acheter. Je suis ce que j'achète. Le principe du marketing, qui présente une certaine image de marque, c'est de vous dire « Vous vous retrouvez dans l'image et les valeurs que prône ma marque ? Elle correspond à votre identité ? Alors venez acheter notre marque pour montrer, pour prouver que vous êtes bien cette personne-là. » Par exemple, vous allez boire une certaine marque de café à capsule pour montrer que vous êtes élégant et raffiné comme Georges Clooney. Alors je donne un exemple un petit peu bateau, on va dire, ou un petit peu peut-être caricatural, mais c'est exactement ça le principe. C'est-à-dire que si vous regardez les pubs, si vous regardez l'univers d'une marque, vous allez voir leur site, vous allez voir leur Instagram, vous allez voir leurs réseaux sociaux, leurs affiches, leurs visuels, etc. Vous voyez que les marques aujourd'hui, elles ne vendent plus un produit avec des caractéristiques très terre-à-terre, voilà la qualité du papier, voilà la qualité du truc, voilà la durabilité. Généralement, aujourd'hui, les marques, elles vendent un esprit, en fait. Elles vendent des valeurs, elles vendent une identité. Et le principe sous-jacent dans cette société consumériste d'aujourd'hui, c'est que si nous nous identifions à la même identité que la marque, alors nous achetons cette marque. Je prouve mon identité en achetant des marques qui valident ou qui correspondent à cette identité. Or, la simplicité, en remettant en question nos choix de consommation, nous permet de questionner ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter cette marque pour être cette personne que j'ai envie d'être. Et à l'inverse, est-ce que cet objet-là que j'achète pour valider mon identité, est-ce qu'il correspond vraiment à ce dont j'ai besoin ? Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce café-là qui coûte super cher et qui fait plein de déchets de capsules ? Est-ce que j'ai besoin d'acheter ce café-là pour me sentir élégant et raffiné ? En réalité, qu'est-ce que j'attends de mon café ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire revenir à la question de, dans cet objet café, qu'est-ce que je veux ? Et du coup, faire comme une étude un petit peu objective des différentes marques de café, des différents produits proposés pour choisir celui qui va vous correspondre le mieux et non pas celui qui a le meilleur marketing qui fait appel à l'identité que vous avez ou que vous voulez avoir. Et à l'inverse, si l'identité d'être élégant et raffiné vous correspond vraiment, bon, c'est vraiment un exemple un peu bateau, mais bon, si vous avez vraiment envie de vous dire que ça fait partie de votre identité d'être élégant et raffiné, est-ce que c'est vraiment le café que vous buvez qui va changer ou affirmer cette identité-là. Vous voyez, en gros, la simplicité, elle vient remettre un petit peu en question ce lien un peu inconscient que fait le marketing entre une certaine identité de marque et notre identité à nous en tant que consommateur, et justement en tant qu'être humain. Parce que nous ne sommes pas que des consommateurs, et c'est justement ça la question. Du coup, si je ne suis plus ce que j'achète, qui suis-je ? Quelle est mon identité ? Si mon identité ne se réduit pas à mon identité de consommateur et à mes choix de consommation, qui suis-je ? Ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est l'idée que la simplicité aide à apporter des réponses possibles à cette question. Du coup, quel est le rapport entre simplifier notre vie et redécouvrir qui nous sommes réellement ? Le rapport entre simplifier notre vie et redécouvrir qui nous sommes réellement, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même au fil des années de pratique de la simplicité. Aujourd'hui, pour vous introduire un petit peu cette idée-là de quelle pourrait être votre identité véritable, j'ai choisi trois points différents qui m'ont aidé à me retrouver. Le premier point, c'est que la simplicité matérielle n'est qu'un premier pas vers un désencombrement mental. C'est-à-dire que quand on dit que le minimalisme, c'est éliminer le superflu pour faire place à l'essentiel, c'est pas seulement le superflu dans nos placards, nos armoires, notre appartement, c'est pas seulement le superflu matériel. Au bout d'un moment, on finit par remettre en question ce qui nous est superflu dans d'autres domaines, notamment le domaine mental, le domaine du temps, comment est-ce qu'on passe notre temps, le domaine de nos valeurs aussi, de comment on voit la vie. Est-ce que ce qu'on nous dit, c'est vraiment... En fait, on commence à remettre en question ce qu'on nous dit, de la même manière qu'on remet en question les objets qui sont dans notre appartement. Donc voilà, pour moi, la simplicité matérielle, le minimalisme, c'est un premier pas en fait vers une démarche de questionnement et de recherche de soi qui est bien plus poussée que juste les objets. La deuxième chose, c'est que pour moi, la simplicité a ensuite servi à remettre en question la vie par défaut et les choix par défaut. C'est-à-dire que j'ai remarqué, pour moi-même en tout cas, c'est que la simplicité aide à apporter de l'intention dans la vie. Donc d'abord en remettant en question mon mode de consommation, puis en apprenant à vivre de manière plus intentionnelle, de manière générale, dans les choix que je fais, dans la manière dont je passe mon temps, dans l'énergie que je mets, dans ce qui m'est vraiment important, dans la définition même de qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Donc en fait, la simplicité a vraiment, dans la définition de qu'est-ce qui m'est essentiel, le fait de réfléchir activement à ça, ça m'a aidé à remettre de l'intention dans ma vie, d'abord dans ma déco intérieure, puis dans le reste de ma vie. Et enfin, le troisième point que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que, personnellement, la simplicité m'a permis de remettre en question jusqu'à ma vie professionnelle, par exemple. Donc quand j'ai pris conscience que je suivais une voie par défaut, c'est-à-dire tel diplôme qui a mené à tel stage de fin d'études, qui a du coup mené à tel type de compétences et tel type de carrière en CDI, en salariat, sans jamais réfléchir à si c'est ce que je veux vraiment, c'est-à-dire que j'ai un peu, de manière réactive, dit oui aux opportunités qui se sont présentées, et je suis très reconnaissante pour les opportunités qui se sont présentées à moi, attention, hein. Mais le fait est que ça a été beaucoup des choix par défaut, des choix en réaction. Genre, ah bah ok, c'est lui qui me dit oui, donc je vais partir là-dedans. Et j'en suis arrivée des années après à un emploi qui me correspondait pas du tout, à une entreprise qui me correspondait pas du tout par rapport à mes valeurs personnelles et ma vision personnelle de mon métier, etc. Et à me demander, mais qu'est-ce que je fous là ? Et je pense que la simplicité et ce travail, en fait, de savoir discerner le superflu de l'essentiel pour moi, non pas ce que le marketing me dit qui est essentiel ou superflu, mais ce que moi, dans ma vie, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes contraintes, par rapport à mes préférences, par rapport à ma personnalité, je pense être superflu ou essentiel pour moi. Ben, je pense que ces années-là de pratique, parce que je pratiquais, j'ai la simplicité depuis 6-7 ans quand j'ai quitté mon emploi, je pense sincèrement que ça m'a aidée à prendre conscience de cette remise en question qui est quand même assez énorme. Hein. Remettre en question son emploi, je pense que c'est une des plus grosses décisions qu'on peut prendre dans sa vie. Donc pour moi, le bénéfice principal de la simplicité urbaine n'est pas de consommer bio et éthique. C'est un peu une conséquence plutôt pour moi. Et si j'avais pas les moyens d'acheter ce genre de choses, parce que c'est quand même en moyenne assez coûteux d'acheter du bio et de l'éthique, je simplifierais quand même ma vie et j'en bénéficierais quand même. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur est-ce que la simplicité c'est que pour les riches, pour avoir un petit peu plus de détails là-dessus, sur le rapport entre les moyens financiers et le fait de pratiquer la simplicité. Pour moi, le bénéfice principal de la simplicité urbaine a été de redécouvrir ma propre identité, de renouer avec qui je suis, avec ma voix VOIX intérieure, et par conséquent avec ma voix VOIE aussi. Donc en quoi la simplicité m'a-t-elle aidé à me retrouver ? Mon identité profonde, celle que vous connaissez aujourd'hui. Donc si vous écoutez un petit peu mon autre podcast ou si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis une écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps, optimiste et imparfaite, qui aime les détectives qui boivent du thé, qui prennent des bains et qui rêvent d'une utopie sans argent. Eh bien, ce n'est pas en achetant bio ou en choisissant des marques minimalistes entre guillemets que ça a été possible. Ça a été possible en apprenant à aller au-delà de « je suis ce que j'achète ». En d'autres termes, la simplicité m'a aidé à remettre de l'intention et de l'attention dans ma vie. Avant d'aller plus loin, je voulais vous informer que Simplicité est un podcast libre d'accès que je produis sur mon propre temps et mes deniers personnels. Vous pouvez maintenant devenir coproducteur ou coproductrice de l'émission pour le prix d'un café sur la plateforme Patreon en allant sur patreon.com/floriteller. Mon but est de montrer qu'il est possible de maintenir une culture sans publicité dans le monde moderne. Et si vous n'avez pas la possibilité de me soutenir financièrement, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez m'aider en recommandant le podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux, ou encore en mettant une note et un commentaire sur iTunes. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Comment renouer avec votre identité profonde grâce à l'intention et à l'attention ? La première chose, c'est tout ce travail de tri des objets qu'on a accumulés par défaut au fil des années. Donc ça, c'est vraiment le principe de base du minimalisme, hein, qui est de remettre en question tous les objets qu'on a chez soi et de désencombrer ce qui nous est superflu. Et en fait, en faisant ce travail-là, d'évaluer chaque objet qu'on a gardé un petit peu par défaut chez soi au fil des années, eh bien, on entraîne à se demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin, ici et maintenant, ou pas ?» En d'autres termes, on s'entraîne à se demander si on en veut vraiment et si cet objet nous est utile à nous. Et du coup, cette démarche de tri des objets nous apprend à nous focaliser sur nos besoins, nos envies et nos valeurs. Et ce que j'ai pu expérimenter personnellement, c'est qu'au fil des tris, on apprend à reconnaître les signes émotionnels, par exemple, de notre voix intérieure. Et on apprend à lire notre boussole intérieure. Est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non, comme disent les Québécois ? Dans un deuxième temps, le slow, parce que pour moi la simplicité urbaine c'est pas seulement le minimalisme, c'est aussi le slow, le ralentissement, la remise en question de l'accélération perpétuelle de la société. Et en fait le slow fait la même chose avec le temps. On se réapproprie notre attention. On se rend compte que notre temps est précieux et qu'on n'a pas forcément envie de passer 2 heures sur les réseaux sociaux ce soir, ou alors, comme Carl Honoré, comme il l'explique dans son livre Éloge de la lenteur, on se rend compte qu'on ne veut pas lire des contes en une minute à nos enfants. Troisième chose, la simplicité crée un vide, mais dans le sens positif du terme. Même si ça peut faire un petit peu peur au début. Moi, je me rappelle quand j'ai arrêté mes séances shopping du week-end et que j'ai commencé à me dire « Ok, et ben maintenant, qu'est-ce que je fais de mes week-ends ?» Parce que mon fiancé de l'époque, il n'est pas dans la même ville que moi, je suis toute seule, je connais pas grand monde, j'habite dans 25 mètres carrés. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça fait un peu peur, cette espèce de nouveaux champs des possibilités. Mais en réalité, ça crée un espace de découverte et de réflexion. Et ça, c'est le début de l'authenticité, je pense. C'est le début du processus de renouer avec nous-mêmes, de renouer avec notre identité d'être humain qui a des qualités, des défauts, des aspirations, des rêves et des peurs. C'est-à-dire que le fait de créer cet espace en simplifiant, c'est pas notre identité de consommateur ou de consommatrice qu'on retrouve, mais notre identité de créateur ou de créatrice au sens large du terme, en tant qu'être humain qui a des talents, des envies, qui a une raison d'être et qui peut créer de la valeur et contribuer à nous-mêmes et aux autres. Alors attention, ça prend du temps. Là, tout ce que je vous explique aujourd'hui, je vous en parle plus de 10 ans après avoir commencé mon propre cheminement. Commencer par changer de manière de consommer, non seulement c'est un premier pas, et non pas un problème, hein, je voudrais surtout pas vous laisser croire que si vous avez commencé à réfléchir à tout ça, et que vous avez changé de marque, etc., c'est mal. Pas du tout. C'est un premier pas, surtout dans la société de consommation dans laquelle nous sommes, hein, on est entraîné à s'identifier à ce qu'on consomme, donc c'est un premier pas qui est très positif à mon sens. Et au début, c'est peut-être bien la seule manière qu'on trouve de s'exprimer, parce que c'est comme ça qu'on a été formaté, et c'est OK. C'est OK de commencer la simplicité par un tri de nos possessions matérielles et par une remise en question de la manière dont on dépense nos deniers durement gagnés. C'est OK de définir nos valeurs et nos priorités à travers ce qu'on choisit de consommer avec intention. Parce que c'est le premier pas de l'écoute de soi, c'est le premier pas vers la pratique de l'intention et de l'attention, et c'est le premier pas vers le fait de reprendre la main au lieu de se laisser mener par le bout du nez. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir la porte à la suite de ça. C'est-à-dire qu'on commence par remettre en question notre consommation, et après, j'ai envie de vous proposer toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous lorsqu'on commence à reprendre la main sur notre propre vie, sur notre vision du monde et sur notre identité, justement. Qui avez-vous envie d'être ? Non pas qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme objet chez vous, mais qui avez-vous envie d'être ? Pour la mise en pratique, je vous invite à prendre un papier, votre téléphone, votre PC ou votre Mac, un enregistreur ou tout autre support qui vous convient. Et je vous invite à noter ce qui vous vient en réponse à ces 3 questions. Question 1, quelles sont mes valeurs ? Par exemple, mes valeurs importantes à moi, Florie, sont l'indépendance, la créativité, l'authenticité et la modération, parmi d'autres. Tout ça, c'est des valeurs. Quelles sont les vôtres ? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez le plus ? Question numéro 2, qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui éveille ma curiosité ? Et si vous avez du mal à trouver une réponse sur ce qui vous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a intéressé ? Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, qu'est-ce qui m'a passionné ? Qu'est-ce qui a éveillé ma curiosité ? Sur quel sujet j'ai voulu en savoir plus, en apprendre plus, en faire plus ? Troisième question, si je n'avais pas besoin de travailler, à quel genre d'occupation passerais-je mon temps ? Je vous invite à noter ces 3 questions et à laisser votre esprit trouver toutes les réponses. Vous faites un petit peu de ce qu'on appelle d'écriture intuitive, quoi. Vous notez tout ce que ça vous évoque. Et si ça vous évoque rien de particulier, ou alors que ça vous fait paniquer ou quoi, vous le notez. Ça ne m'évoque rien de particulier, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'intéresse. Là, je commence à paniquer parce qu'en fait, je me rends compte que je ne sais pas du tout ce qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ce n'est pas un travail scolaire. L'idée, là, que j'essaie de vous proposer avec cette mise en pratique, c'est de commencer à renouer avec votre identité d'être humain. D'aller au-delà de l'identité de consommateur pour aller vers votre identité d'être humain. Et j'espère que ça vous sera utile. Pour la ressource du jour, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le livre qui s'appelle « Comme par magie », un livre sur la créativité et l'étincelle intérieure, écrit par Elisabeth Gilbert. Autrice du roman « Mange, prie, aime » qui a propulsé sa carrière, elle parle de sa vocation d'écrivaine, de ses doutes, de la créativité, mais aussi de la peur, du courage, de la permission et toutes ces choses-là. Même si vos envies ou vos aspirations ne sont pas d'ordre créatif dans le sens artistique du terme, je vous invite vraiment à découvrir ce livre parce que je le trouve beau, positif et hyper encourageant pour oser avancer vers ce qu'on veut vraiment. Et quelque part, c'est un livre, en tout cas moi, dans mon expérience personnelle, c'est un livre qui m'a donné la permission d'être moi-même. Donc si vous arrivez à cette étape-là de votre cheminement de la simplicité où vous commencez à renouer avec la personne que vous êtes, je vous invite vraiment à découvrir le livre « Comme par magie » par Elisabeth Gilbert. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous y puiserez des idées pour réfléchir à votre identité avec intention au-delà de la consommation. Vous retrouverez un récap des sujets abordés ainsi que des ressources mentionnées dans les notes de l'émission sur simple-6-cite.com/024. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur le site ou me contacter sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @floriteller, F-L-O-R-I-E-T-E-2-L-E-R. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine !